L'intitulé de la conférence a été suggéré par le frère Patrick Marie. Donc, j'imagine que c'est une question qu'on lui a posée. Elle a l'avantage de la netteté. Et ma foi, je me suis pris au jeu en me disant, est-ce que vraiment la Bible permet de répondre à la question ? Et alors, vous voyez, c'est une petite enquête, plutôt que dans l'Apocalypse, hein, comme c'était prévu au départ, à travers la Sainte Écriture. Alors, vous voyez, à Fanjeaux, d'où je viens, il existe un promontoire où le jour de la fête de Sainte Marie-Madeleine, on y revient toujours, Saint Dominique a vu une boule de feu descendre du ciel pour lui indiquer où fonder le monastère de ses sœurs, à Prouille. Et puis, du même endroit, on voit aussi le pic de Bugarache, le sommet des Corbières, où devait, paraît-il, s'achever un calendrier maya, le 21 décembre 2012. Le pic devait servir de répit provisoire, au milieu de l'apocalypse finale, et de piste d'atterrissage pour des soucoupes volantes qui viendraient ici chercher les quelques élus survivants à la catastrophe. À cette époque, donc il y a 11 ans, on croisait dans les rues, pour une fois animées, du village de Bugarache, des gens habillés comme Jacques Villeray dans la soupe aux choux, et il se murmurait que déjà s'amorçait la hausse des prix des terrains sur cette parcelle préservée. Une date, donc 21 décembre 2012, une fin du monde. Pour imiter Martin Stephens, qui nous disait hier qu'une modernité consciente d'elle-même est déjà une fin du monde, eh bien, j'oserais dire que les hommes ont élaboré le calcul des dates afin de connaître la fin du monde. Ça peut vous paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas du tout. Il n'y a pas que le calendrier maya qui s'achève le 21 décembre 2012. Tout calendrier est une mesure du temps et donc fondée sur un critère qui permet cette mesure. Et le calendrier dure aussi longtemps que le critère est valable. Il n'existe pas de calendrier perpétuel. Et donc, vous me voyez venir, s'il y a des calendriers dans la Bible, il doit donc exister une mesure de la fin du monde dans la Bible. C'est en quelque sorte une vérité presque spéculative qui se déduit logiquement à partir de ces axiomes. Or, curieusement, la Bible est plus que réticente. Et il suffit de citer au seuil donc, juste avant l'Ascension, dans les Actes des Apôtres, les disciples, qui sont tout joyeux de voir le Seigneur ressuscité, déclarent « Seigneur, quand vas-tu rétablir la royauté en Israël ?» Et le Christ répond « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments fixés par le Père de sa seule autorité, mais demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que mon Père envoie la force promise. » Vous voyez, voilà entre quoi va naviguer mon exposé, c'est-à-dire, a priori, le calcul de la date de la fin du monde est quelque chose qui est inscrit dans les calendriers. Et je vais commencer par vous parler d'un certain nombre de calendriers anciens qui se posent cette question. Et puis ensuite, vous verrez, je vous montrerai aussi comment ces calendriers laissent des traces, de fait, dans l'Écriture. Il y a bien des calculs de dates importantes à venir qui font que la prophétie est en quelque sorte scientifiquement justifiée par... en tout cas, on peut prophétiquement annoncer des choses à venir. Après tout, aujourd'hui même, beaucoup de gens sont capables de prédire les éclipses de soleil, même... l'extinction du soleil à l'horizon de quelques milliards d'années. Nous sommes ici devant des sortes de prophéties scientifiques, un genre que l'Écriture elle-même connaît très bien. Mais pourtant, ce que nous allons voir aussi, c'est une réticence de l'Écriture à donner des réalités vraiment, enfin des dates précises, de façon à à entretenir une véritable patience des fidèles de Dieu pour qu'ils ne reçoivent que de Dieu et de lui seul l'achèvement de cette création-ci. En définitive, c'est le dernier mot. Si la Bible ne donne pas de date de la fin du monde, eh bien c'est parce que l'attitude spirituelle qui consiste à ne pas savoir est supérieure et meilleure que celle qui consisterait à savoir. Et dans la mesure où la Bible est d'abord et avant tout une clé pour le ciel et pour l'éternité, eh bien elle nous offre l'attitude spirituelle qui est la plus juste. Alors, commençons évidemment par celui auquel il faut toujours revenir, hein, Platon dans son immortel Timée. Vous savez, j'ai consacré une partie de ma thèse aux échos qu'il y a du Timée dans le livre des Proverbes dans la version grecque. Et donc, j'avoue que j'y reviens toujours avec plaisir, parce que c'est un texte absolument fondateur. Et voilà ce que nous dit donc Platon. « Quand il a mis de l'ordre dans le ciel, Dieu y a produit, à partir de l'éternité qui subsiste immobile, une image qui marche sans fin, suivant un nombre perpétuel, et c'est ce que nous avons appelé le temps. » Vous voyez, le temps est une projection dans la matière de l'éternité de Dieu. Et pour que ce soit vraiment qu'elle ressemble à Dieu, eh bien, il faut qu'elle suive des proportions numériques qui imitent la perfection de l'essence divine elle-même. Et voilà comment il continue. « Les jours, les nuits, les mois et les années n'étaient pas avant que le ciel fût né. Et ce fut en organisant le ciel que Dieu fabriqua leur naissance, hein, celle des mois, des nuits, des jours et des années. » Ça veut dire, cette formule, que toutes nos mesures du temps proviennent de l'observation des révolutions des astres. Le jour, c'est la révolution de la Terre. Le mois, celle de la Lune autour de la Terre. L'année, celle du Soleil autour de la Terre. Dans le système cosmique où vivait Platon, nous dirions l'inverse, c'est la révolution de la Terre autour du Soleil. Donc vous voyez que nos dates, hein, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de calendrier sans un critère de mesure. Eh bien là, toutes les dates que vous pouvez concevoir sont toutes fondées sur une de ces révolutions-là, celle de la Terre, de la Lune ou du Soleil. Ça, c'est en quelque sorte les données principales, parce qu'elles sont plus faciles à observer. Et puis, elles correspondent aussi un petit peu à notre temps à nous. Vous voyez, c'est un rythme qui est compatible avec celui de l'existence humaine. Après tout, le jour, c'est évident, puisque c'est entre l'alternance du sommeil et de la veille. Le mois, alors ça c'est tout à fait intéressant pour la liturgie, d'ailleurs, la liturgie d'Israël. L'année, évidemment, pour l'alternance des saisons, et donc des cultures, de l'agriculture, du travail des champs, etc. Le soleil, évidemment, alors suivant, si vous voulez, que les cultures donnent plus d'importance, hein, à telle ou telle de ces mesures, leur calendrier sera plutôt lunaire, comme il est chez les Arabes, ou solaire, hein, comme il est chez les Grecs ou les Romains, l'unisolaire, c'est-à-dire combinant les deux, comme il est chez les Juifs. Bref, tout ça, c'est, vous voyez, on voit bien comment ça fonctionne. Platon, vous voyez comment ça progresse, parce que ce ne sont pas les seuls astres. La Terre, d'accord, la Lune, très bien, le Soleil, on voit à peu près ce que c'est. Oui, mais il y a aussi des quantités de planètes, et puis également la sphère des fixes, c'est-à-dire les étoiles fixées sur le sommet et qui tournent elles aussi, hein, puisque qui tournent autour de lui. Du coup, Platon postule une année parfaite, celle qui correspond à la combinaison de la révolution de tous les astres, pas uniquement de la Terre, de la Lune ou du Soleil, mais aussi en prenant en compte les planètes et les étoiles. Bon, d'ailleurs, qui n'ont pas de révolution pour lui, mais ça peu importe. Voilà ce qu'il a. Alors je vous cite donc son texte, un petit peu complexe comme ça, mais néanmoins tout à fait intéressant. Il n'en est pas moins possible de concevoir que le nombre parfait du temps est accompli et que l'année parfaite est révolue lorsque toutes les 8 révolutions des planètes, dont les vitesses varient, venant à s'achever ensemble, se retrouvent comme au point de départ, après un temps mesuré, à l'aide de ce qui reste toujours le même et de ce qui a une marche uniforme. Ben oui, parce que en fait, c'est logique. Comme les planètes, enfin les astres suivent un mouvement circulaire et parfait, qui est toujours identique, il est nécessaire qu'à un moment, les planètes finissent par retrouver leur configuration de départ, en quelque sorte. Il se produit, selon une périodicité à évaluer, un alignement des planètes, comme c'est même encore gardé dans le langage courant, pour lequel cette notion existe toujours, mais vous voyez d'où elle vient. L'alignement des planètes, c'est le moment où ces révolutions qui ont des durées différentes deviennent toutes multiples l'une de l'autre pour retrouver une position de départ ou de fin. Ça dépend comment on le voit. Il existe donc un point vers lequel ces révolutions des astres tendent toutes pour se retrouver alignées comme au principe. Platon appelle cette durée, dont il ne nous donne pas d'ailleurs la périodicité, il n'ose pas le faire, peut-être parce que justement il lui manque des éléments de calcul, il l'appelle le jour sidéral, c'est-à-dire parce que nous connaissons des jours terrestres qui correspondent à la révolution de la Terre, mais l'univers dans son ensemble possède un jour. Alors, un jour, évidemment, qui dure, on ne sait pas combien de jours à nous, on ne sait pas combien de siècles à nous, combien de millénaires à nous, peu importe, mais néanmoins, l'univers lui-même possède un jour sidéral ou cosmique. L'univers est un être périodique. Après un temps suffisamment long, les astres y reprendront leur position initiale. On appelle ça, alors vous voyez, là on rentre dans des spéculations mystiques sublimes, la grande année. C'est ce qu'on appelle chez les philosophes anciens et physiciens anciens, la grande année, c'est-à-dire non pas l'année telle que nous la connaissons, qui est la révolution du soleil, mais l'année de l'univers. Du coup, on comprend, puisqu'il existe une périodicité selon laquelle le monde reprend une configuration de départ à partir de laquelle il va repartir, forcément, la détermination de la grande année devient quelque chose de très, très, très intéressant. On aimerait savoir combien elle dure, cette grande année. Alors, vous voyez, vous allez me dire, mais tout ça, c'est daté, etc. Oui, mais évidemment, c'est daté parce que ces gens connaissaient 8 révolutions de planètes. Nous, évidemment, nous avons singulièrement augmenté le nombre des révolutions. Mais après tout, est-ce qu'on est vraiment sorti de ce schéma selon lequel, parce qu'on dit que, la Voie lactée tourne autour d'elle-même aussi. Enfin, vous voyez, nous avons toujours, en fait, une conception du mouvement des astres, certes beaucoup plus complexe que les anciens, mais circulaire. Alors, voilà ce qu'il faut ajouter. Lorsqu'on ajoute quelques coordonnées supplémentaires, on constate que les astres ont une influence sur la vie, sur la Terre, avec l'exemple le plus évident, qui est celui des marées. Bien sûr, ça, exemple toujours repris, presque jusqu'à ce qu'on en ait assez, parce que c'est un exemple qui est tellement facile à percevoir que il revient tout le temps. Les anciens savaient bien que lorsque le soleil et la lune sont alignés, les marées sont plus fortes que lorsque le soleil et la lune tirent en sens inverse. Et c'est les fameuses grandes marées d'équinoxe. Bon. Et donc, dans la mesure où on constate que l'alignement des planètes tend à produire des phénomènes sur la Terre plus forts, plus significatifs, Qu'en sera-t-il lorsque toutes les planètes seront alignées et qu'elles exerceront toutes en même temps leur action sur la Terre ? Au terme de la grande année, on sent qu'il va se passer quelque chose là. Ça commence à devenir sacrément dangereux. On peut déduire facilement que lorsque la conjonction inclut tous les astres, et pas uniquement le Soleil et la Lune, la pression sur les eaux sera telle qu'elles déborderont allègrement toutes les barrières dérisoires qu'on aura pu élever pour prévenir leur débordement. Voilà ce que dit Sénèque. La marée s'avance jusqu'à 100 000 sur certains points. Peut-être qu'il était dans la baie du Mont-Saint-Michel, vous voyez, du côté de Granville, où en effet les marées sont là pour le coup sur des kilomètres et des kilomètres. Sans dommage et d'un coup régulier. C'est avec mesure qu'elle croît et décroît tour à tour. Mais au jour du déluge, ni loi ni frein n'arrêtent ses élans. Donc voilà l'annonce d'un débordement universel. Ça joue sur deux aspects. C'est qu'il y a d'une part la pression sur les eaux qui produit le déluge, mais également lorsque les astres seront alignés pour les étoiles, en tout cas pour exercer la chaleur, là, ça va être l'inverse, non pas le déluge, mais une conflagration universelle. Un monde entièrement embrasé par la conjonction des astres qui provoque la chaleur. Voilà ce que dit Bérose, astronome chaldéen du 3e siècle avant Jésus-Christ, bien connu par les pères de l'Église, d'ailleurs, qui nous ont transmis beaucoup de fragments de lui. Le globe prendra feu quand tous les astres, qui ont maintenant des cours d'hiver, se réuniront sous le Cancer et se placeront de telle sorte les uns sous les autres qu'une ligne droite pourrait traverser tout leur centre. Oui, c'est ce qu'on appelle la conjonction astrale. Le déluge, lui, aura lieu quand toutes ces constellations seront rassemblées sous le Capricorne. Le premier de ces signes régit le solstice d'hiver, l'autre le solstice d'été. Leur influence à tous deux est grande, puisqu'ils déterminent les deux principaux changements de l'année. Les Grecs appelaient cataclysmos, donc le cataclysme, la conjonction qui produit le déluge. Et donc, chez les Latins, diluvium, d'où vient d'ailleurs notre déluge. Ça, c'est en quelque sorte le solstice d'hiver, celui où la combinaison refroidissante est maximale, et à la grande année, donc, elle sera maximale, et donc il fera très très froid. Et même avec des pluies diluviennes, vous avez vu comme ça marque encore notre vocabulaire, c'est ça qui est impressionnant. Quand on parle de pluie diluvienne, en fait, on fait allusion à la grande année du déluge. Avec donc le solstice d'hiver et le solstice d'été, à l'inverse, lorsque l'action sera réchauffante, c'est ce qu'on appelle l'ekpyrosis, l'ekpyrose, c'est-à-dire l'embrasement, en fait, l'embrasement universel. Alors, Aristarque estime la grande année. Alors là, après, quand vous rentrez dans le compute, je peux vous dire que là, vous vous amusez parce que c'est très, très, très varié. Aristarque donne, rappelez-vous, Aristarque que l'on trouve dans Tintin, d'ailleurs, n'est-ce pas, c'est Hipparque, le cirque Hipparque, c'est ça, voilà, non, pardon, voilà. Bon, mais il me semble, je me demande si Aristarque n'est pas chez Tintin quand même. Bon. En tout cas, le cycle de la grande année est de 2484 ans pour Aristarque, pour Arétès de Durazzo, 5552, pour Orphée, 120 000, Cassandre, 3 600 000 ans. Bon, vous voyez, bref, on sent qu'ils avaient un peu de problème à calculer quand même, parce qu'il y a des variations importantes. Mais ce qui compte pour nous, c'est la démarche qui est scientifique, en fait. Vous verrez chez Cicéron. Cicéron est assez. Lui donne la. Attendez. Dans l'Hortensius, il attribue avec précision 12 954 ans à la grande année, enfin 12 954 années solaires à la grande année. Alors, d'ailleurs, Cicéron, vous sentez que c'est... là, on sent les esprits rassis, en quelque sorte, c'est-à-dire qui ne veulent pas se laisser trop impressionner par ce genre de calcul. Donc, lui, il nous dit que la grande année a commencé lorsque l'âme de Romulus a pénétré dans le temple après son apothéose, après sa mort. Et que donc, du coup, la naissance de Rome correspond au début d'une grande année. Et que du coup, on a vécu à peine 500 ou 600 ans depuis le début de cette grande année, et que donc il reste encore au moins 12 000 ans avant l'achèvement de la grande année. Donc, vous sentez ici, chez un grand rationaliste comme Cicéron, il y a quand même le désir de calculer la grande année d'une manière telle que sa préoccupation sorte des consciences. Que les gens ne soient pas omnubilés par ce calcul en se disant de toute façon l'achèvement ce sera pour une génération bien postérieure, on ne la connaîtra pas. Et voilà. Alors donc vous voyez ça macrobe c'est 15 000 ans etc. Bon voilà. Alors cette grande année apparaît dans un texte célèbre et splendide qu'on appelle la quatrième églogue de Virgile, enfin sa quatrième églogue, celle dans laquelle il annonce l'âge d'or. Et voilà ce que, puisque vous avez, c'est là où il est dit « Iam et redit Virgo hein, », voici que revient la Vierge, et donc qui a été interprétée par certains pères comme une annonce païenne, une prophétie païenne de la naissance du Christ. En tout cas, texte ultra célèbre, absolument splendide, qui se situe résolument dans cette mystique des nombres pythagoriciennes. Voilà ce que dit Virgile. « Il vient en effet le dernier âge du poème de la Sibylle. Voici que renaît en son intégrité le grand ordre des siècles. » Alors, vous voyez, le grand ordre des siècles, ici, c'est l'organisation harmonieuse du ciel. Et voilà ce qu'il emploie carrément le terme, hein, « Incipient magni procedere menses », les mois de la grande année inaugureront leur cours. Il la mentionne explicitement dans la quatrième églogue de Virgile. Et alors, c'est assez amusant d'ailleurs de voir comment le grand Jérôme Carcopino, qui a consacré une superbe étude à la quatrième églogue de Virgile, lui essaye de dater très précisément la date de la composition de l'églogue. Donc il la situe, hein, là c'est précis, au 5 octobre 40, avant Jésus-Christ. Puisque c'est après divers soubresauts des guerres civiles qui ont suivi la mort de César, et où il espère que eh bien un siècle nouveau va succéder au siècle de fer qu'il vient de vivre, celui des guerres civiles épouvantables. Et Iam et redit Virgo, c'est parce que à cette année-là, la constellation de la Vierge était cachée entre le 23 août et le 5 octobre, et donc le jour où revient la Vierge, elle réapparaît dans le ciel, eh bien c'est le 5 octobre de l'année 40. Oui, donc c'est précis. Vous voyez, comme ça, vous avez vraiment une datation. Et là, il est clair que le poète entend, en quelque sorte, saluer l'avènement d'un âge nouveau. Alors, on a parfois, mais c'était un calcul très imprécis, essayé de rapporter la quatrième églogue à l'avènement de César, donc, mais le problème c'est que c'était quand même de 10 ans postérieurs et qu'il s'est passé encore beaucoup de choses terribles entre les deux moments, et donc ça ne correspond pas en fait à la date de la quatrième églogue. Peu importe, juste pour que vous sachiez, il y a un texte qu'on appelle l'inscription calendaire de Priène, qui est en fait une inscription officielle commandée par la ville de Priène en Asie Mineure, à l'occasion de l'avènement d'Auguste, et qui dit carrément « Voici que vient le temps où l'on ne regrettera pas d'être né. » Voilà. Ou plutôt, « On ne regrettera plus d'être né. » Et cet avènement de César, Auguste, est présenté explicitement dans l'inscription calendaire de Priène comme « Evangelion », comme un évangile. C'est-à-dire que l'évangile, c'est l'annonce de l'avènement du roi juste qu'est César Auguste. Alors évidemment, après vous faites toutes les corrections nécessaires, parce que César Auguste, c'est un certain très très grand empereur, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de sang sur les mains. Toujours est-il que vous voyez comment hein, tous ces éléments qui fondent tout simplement notre vocabulaire même, bien entendu, ils existent dans la Bible, mais ils existent aussi hein, dans la culture grecque et latine de ce temps. Alors, quelle heure est-il? Parce qu'il faut quand même que je fasse attention. Voilà, 42. Tu me donnes jusqu'à combien? 15, c'est pas à peu près? C'est ça, voilà. Parce qu'après, il y a les questions, c'est ça? Un peu moins, d'accord. Alors, donc il y aurait beaucoup de choses à dire là, sur ces passionnants computes calendaires païens, mais on va passer à la Bible. Alors là, l'Écriture sainte connaît hein, ces systèmes, et d'une certaine manière, elle entend aussi parfois, les prolonger. D'ailleurs, dans la version, enfin le texte que j'ai étudié pour ma thèse, qui est la version grecque du livre des Proverbes, enfin, de deux chapitres du livre des Proverbes, il y a une addition qu'on trouve que dans le grec, qui n'est pas dans l'hébreu, et qui dit ceci « Je vais donner un nombre aux choses qui existent depuis l'éternité. » Voilà. C'est en puisant dans la mémoire, je vais donner le nombre de ce qui existe de toute éternité. Donc, vous avez ici... un souci qui est très pythagoricien, c'est-à-dire que les êtres obéissent à une proportion qui s'appelle le nombre, qui règle leur progression, leur marche, leur développement. On est dans un contexte très différent, mais ça rejoint un peu ce dont nous parlait Martin Stephens hier, citant Galilée, « La nature est écrite en langage mathématique ». Le nombre, c'est pas exactement l'arithmétique de la Renaissance, d'accord, mais néanmoins, il y a quand même quelque chose de commun, c'est-à-dire que le nombre comme la mesure proportionnée qui commande le développement harmonieux des êtres. Et donc, la version grecque du livre des Proverbes dit bien que la sagesse, c'est hein, le nombre des choses. Et ça, pour le coup, on le trouve même aussi dans la version hébraïque du livre de Job, où on dit que Dieu a donné un nombre aux choses. Hein, ça, c'est en hébreu, pour le coup, et pas en grec. Dieu a donné un nombre aux êtres de l'univers, et ce nombre, c'est la sagesse qui les connaît. C'est pourquoi Salomon, l'époux de la sagesse, peut dire, prolongeant ici d'ailleurs sur la base de Job et des Proverbes selon la Septante, peut dire ceci, Sagesse 7:17, c'est le Seigneur qui m'a donné une connaissance infaillible des êtres pour connaître la structure du monde, l'activité des éléments, ou l'actualité des éléments, c'est energeian, le commencement et la fin et le milieu des temps, là c'est chronon et pas kairon, les alternances des solstices et les changements des saisons, les cycles de l'année et la position des astres. Alors, vous voyez, là, quand même, il y a une accumulation hein, tout à fait extraordinaire, avec un vocabulaire technique extrêmement précis que le Salomon grec du livre de la Sagesse emprunte à des manuels, enfin, en tout cas à la science courante hein, de son temps, pour nous dire que Salomon a reçu la connaissance infaillible des êtres. Enfin, bref, il sait la structure du monde, il est capable de lui donner un nombre et donc de déterminer son principe, son milieu et sa fin. Vous voyez, là, ça commence à nous intéresser quand même. Alors, le terme de grande année n'apparaît pas, à ma connaissance, dans la Bible. Il faudrait, là, pour le coup, ça vaudrait la peine de regarder vraiment dans le grec, s'il n'y aurait pas quelques réminiscences ici ou là. Mais néanmoins, je ne crois pas l'avoir trouvé. Néanmoins, vous trouvez quand même cette idée que puisque la création est harmonieuse, qu'elle est gouvernée par un nombre, qu'elle est périodique, avec commencement, milieu et fin, avec saison, cycle, cuclus, cycle des années, position des astres, etc., dans une cosmologie qui reste fondamentalement celle de la science grecque, eh bien, là aussi, le Salomon grec pense qu'on peut connaître les dates des futures éclipses, etc. Donc, vous voyez, pourquoi ne pas postuler que dans la Bible, il y aurait des éléments pour connaître l'achèvement du calendrier biblique. Vous voyez, c'est a priori tout à fait vraisemblable. voyez, à l'aide ici, pour le coup, là, on sent, c'est tout à fait extraordinaire, les réminiscences du Timée, de la science grecque. Voilà. Alors, ça, vous voyez, pour le coup, ce texte que je vous ai cité témoigne de l'entrée, en quelque sorte, dans la Bible, hein, de ces schémas scientifiques venus de la Grèce, principalement, et de Babylone. Qu'en est-il quand on regarde vraiment dans la prophétie classique, c'est-à-dire chez les textes qui posent les valeurs fondatrices, hein, vraiment de l'expérience spécifiquement juive et israélite de Dieu. C'est sûr que là, on ne trouve plus ce genre de considération. Vous trouvez chez les prophètes l'impatience du jugement divin, qui est exprimé selon une formule assez classique, c'est-à-dire « jusque à quand ?» quel est le présupposé de base ? C'est que les transgressions de la loi divine ne peuvent demeurer impunies, puisque l'ordre établi par Dieu est un ordre juste, et donc il sanctionne également les manquements à cette justice qui le désordonne. C'est à partir de cette exigence-là que naît l'idée de jugement eschatologique dans la Bible. C'est donc, vous le sentez quand même ici, un changement de modèle très net par rapport à l'approche que l'on a vue dans la prophétie païenne, où l'idée de fin du monde possède un fondement scientifique et cosmologique. C'est lié à un cycle de l'univers. Alors que chez les prophètes, l'idée de jugement final est liée plutôt à la maîtrise par Dieu d'une création qui est dans sa main et qu'il a constituée juste, alors d'une justice après dont il appartient à toute l'histoire sainte de développer certains, quand même, le fait qu'elle soit vraiment la justice divine. Mais néanmoins, vous sentez que l'idée de jugement apparaît à partir de Dieu en tant qu'il est juste. Hein. Et ici, la cosmologie, évidemment qu'elle a une place, enfin, elle est entièrement subordonnée à un projet intelligent, un intelligent design, si vous voulez employer une terminologie à la mode. Cette harmonie de l'univers, elle est intrinsèquement liée à un projet intelligent formulé par une créature libre et libre à toutes les étapes de sa création. Pas une créature, un être libre et Dieu lui-même. L'idée de jugement, en un mot, relève dans la Bible de la morale, alors que chez les païens, elle relève de la cosmologie. Ça, évidemment, alors des ponts sont possibles entre les deux, évidemment. Il ne faut pas vouloir dire comme Tchestov quoi entre Athènes et Jérusalem, qui cite d'ailleurs ici assez mal Tertullien, mais il ne faut pas vouloir opposer les deux comme ça a priori, mais néanmoins on sent bien quand même que la portée n'est pas du tout la même. Alors, d'où les formules habituelles chez les prophètes qui constatent l'ampleur de l'injustice des hommes, Israël et nations mêlées d'ailleurs, et en appellent directement à l'intervention de Dieu avec puissance. Alors, vous voyez par exemple Isaïe 6, hein, « Jusque à quand, Seigneur ?» Il me répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient détruites et dépeuplées, les maisons inhabitées, que le sol soit dévasté. Psaume 73, « Jusque à quand, ô Dieu, blasphémera l'oppresseur ? L'ennemi va-t-il outrager ton nom jusqu'à la fin ? Pourquoi retires-tu ta main ? Tiens-tu ta droite cachée en ton sein ?» Donc, vous voyez ici, impatience prophétique. C'est vraiment des formules classiques, hein, de cette attitude qui demande à voir la justice de Dieu, parce qu'elle est intrinsèque et inhérente à son projet créateur. Variante étonnante, d'ailleurs dans le Pentateuque, où Dieu s'adresse à lui-même cette question. Nombre 14. Le Seigneur dit à Moïse, « Jusque à quand ce peuple va-t-il me mépriser ? Jusque à quand refusera-t-il de croire en moi, malgré les signes que j'ai produits chez lui ?» Ou alors, toujours dans les nombres, « Jusque à quand cette communauté perverse qui murmure contre moi ?» Ici, détail très intéressant, parce que c'est Dieu lui-même qui, en quelque sorte, assume l'impatience des prophètes, qui la consacre, hein, qui en dit, en quelque sorte, la justice et la vérité. Autre variante, alors ici non plus l'impatience devant la prospérité des méchants, mais la lassitude des prophètes devant les épreuves des justes. Psaume 6, « Mon âme est toute bouleversée, mets-toi, Seigneur, jusque à quand ? Reviens, Seigneur, délivre mon âme, sauve-moi en raison de ton amour. » Psaume 89, alors là, tout à fait intéressant. « Fais-nous savoir comment compter nos jours. » Vous voyez, on retrouve ici les dés de compute. « Que nous venions de cœur à la sagesse, reviens, Seigneur, jusque à quand ? Prends en pitié tes serviteurs. Hein, » jusque à quand vont durer ces épreuves des justes qui souffrent injustement contre toute justice, tandis que les impies, eux, prospèrent et connaissent toutes sortes de félicité. Un scandale pour la justice divine. Donc, vous voyez bien ici que toutes ces interrogations, avec les subtiles modulations qu'on trouve dans l'Écriture sainte, où Dieu lui-même s'approprie cette plainte prophétique, il y a même un lieu, par exemple, où c'est Jérémie, carrément, « Jusque à quand verrai-je le signal ? Entendrai-je l'appel du corps ?» Là, vous sentez que c'est l'indignation de Dieu lui-même que le prophète fait sienne. Et pour dans une sorte de configuration totale à la justice divine dans toutes ses dimensions les plus paradoxales. Bon, bref, vous avez ici, on pourrait vraiment surveiller à partir de cette formulation jusqu'aux Acans une magnifique expression de l'impatience prophétique fondée dans l'impatience de Dieu lui-même. Mais vous sentez bien qu'ici, il ne s'agit pas de cosmologie, mais de morale. Alors voici un lieu tout à fait remarquable chez Zacharie, puisque dans cette terminologie prophétique, nous voyons apparaître l'idée de compute. Alors Zacharie, l'ange du Seigneur prit la parole et dit, « Seigneur Sabaoth, jusque à quand tarderas-tu à prendre en pitié Jérusalem et les villes de Juda auxquelles tu as fait sentir ta colère depuis 70 ans ?» À l'ange qui me parlait, le Seigneur répondit par des paroles de bonté et de consolation. Alors l'ange me dit, fais cette proclamation, ainsi parle le Seigneur, j'éprouve un amour très jaloux pour Jérusalem et pour Sion, mais une très grande irritation contre les nations tranquilles. Car moi je n'étais que peu irrité, mais elles ont concouru au mal. C'est pourquoi je me tourne de nouveau vers Jérusalem avec compassion, mon temple sera rebâti, le cordeau sera tendu à Jérusalem. » Alors ici, vous avez bien tous les éléments vraiment de la Bible magnifiquement représentés, synthétisés dans ces quatre versets splendides, c'est-à-dire l'impatience prophétique, « Jusqu'à quand tarderas-tu à prendre en pitié Jérusalem ?» les promesses de restauration de la ville sainte, spécifiquement d'ailleurs à travers le temple rebâti, avec l'avènement d'une Jérusalem et d'un temple eschatologique, qui sera lieu de paix et de prospérité pour toujours en rétribution de la justice divine, précédé par le châtiment des méchants. Donc vous voyez, là vous avez vraiment une pensée sur la fin du monde tout à fait splendide, hein, bien sûr. Et avec ici, ce qui est intéressant, c'est une date, c'est-à-dire 70 ans. Qu'est-ce que c'est ? C'est là, du coup, c'est intéressant de voir comment apparaissent les dates dans l'Écriture sainte lorsqu'il s'agit d'assigner une périodicité à la fin du monde. Les 70 ans, c'est la durée assignée à l'épreuve de l'exil dans le livre de Jérémie, chapitre 25, verset 12. C'est-à-dire que Jérusalem est tombée en 587, et 70 ans devrait signifier la durée du service accompli par le peuple hébreu avant sa restauration. Voilà d'où sort ce chiffre. Il vient en fait de spéculations sur l'année jubilaire. C'est très facile à comprendre. c'est que dans le Pentateuque, vous trouvez toute une législation, d'ailleurs remarquable, sur l'émancipation des gens qui sont tombés en esclavage pour dette. C'est-à-dire des gens qui, ne pouvant pas éteindre leurs dettes, sont obligés de se vendre eux-mêmes pour éteindre ce qu'ils doivent à leurs créanciers. Mais le Pentateuque précise que Israël ayant été libéré par Dieu de la servitude de l'Égypte, il ne saurait y avoir de servitude perpétuelle en Israël. C'est incompatible avec la condition de peuple de l'Alliance. Et donc, il y a un mécanisme prévu pour qu'au bout d'un certain nombre d'années de service, de servitude, l'esclave israélite soit émancipé. Ça, c'est l'année jubilaire ou les grands jubilés tous les 49 ans. Enfin, voilà, je ne m'attarde pas là-dessus. Donc, vraisemblablement, Jérémie a considéré que l'exil était un service accompli pour éteindre cette dette de péché qu'Israël a contractée envers Dieu en tirant sur la corde de la miséricorde de Dieu qui l'a sorti d'Égypte, hein, et en tirant tellement qu'elle a fini par presque se casser. Oui, elle ne tient plus qu'à un fil. Et du coup, le 70 années de service, eh bien, c'est un certain nombre d'années jubilaires qui décideront de l'extinction de la dette parce qu'en fait, Dieu a décidé de faire grâce. Voyez, et de ne pas faire payer la dette jusqu'au bout, mais à un moment de gracier son peuple. Alors, voilà donc vous voyez, c'est ce qui est tout à fait remarquable dans cet oracle de Zacharie, c'est que vous trouvez l'idée prophétique classique, hein, de l'impatience du jugement et de la fin de l'épreuve des justes en lien avec une date. Alors, du coup, à partir de ces 70 ans de Jérémie et donc de leurs échos chez Zacharie, etc., on va avoir dans l'apocalyptique juive de magnifiques témoignages de computes complexes. Alors, je vous donne quelques-uns. Daniel 8, versets 13 et 14. « J'entendis un saint qui parlait, jusque à quand la vision ?» Le sacrifice perpétuel, désolation de l'iniquité, sanctuaire et légion foulés aux pieds. Il lui dit, encore 2300 soirs et matins. Alors le sanctuaire sera revendiqué. Vous voyez, 2300 jours, grosso modo. Bon. Ou alors Daniel 12. L'homme leva la main droite et attesta par le Seigneur vivant, pour un temps, des temps et un demi-temps. Toutes ces choses alors s'achèveront. Quand sera achevé l'écrasement de la force du peuple saint. Donc, un temps, des temps et un demi-temps. Généralement, on comprend ça de 3 ans et demi. Bon. Donc, voilà un compute. Ah, il va falloir s'arrêter. 5 minutes seulement. Oh là là, bon, je passe au Christ quand même, c'est plus intéressant ça. Voilà, enfin, c'est plus intéressant, c'est tout à fait intéressant aussi. Et simplement, ça permet de vraiment bien préciser les choses. Alors, donc, vous voyez, l'apocalyptique juive, hein, elle s'est donné quelques perspectives remarquables. Dans le livre de Daniel, vous avez donc une prophétie sur les 70 ans de Jérémie actualisée qui dit qu'il ne s'agit pas de 70 années consécutives, mais de 70 années jubilaires consécutives. Alors, comme une année jubilaire, c'est tous les 7 ans, 70 années jubilaires, ça fait 490 ans. Facile à compter. Et là-dessus, certains frères m'ont déjà entendu, mais je tiens beaucoup au fait que l'année de grâce de la part du Seigneur, que le Christ lit dans Luc chapitre 4, verset 18, c'est en fait une référence à l'année jubilaire, à la 490e année de la prophétie de Daniel. Puisqu'il semble bien que le début de cette prophétie de Daniel soit à mettre en 462 avant Jésus-Christ, 463-462, et donc si vous comptez 490 ans, vous arrivez à 27-28, c'est-à-dire probablement l'année où le Christ a prononcé ce discours dans la synagogue de Nazareth. Ça, c'est probable. Et donc, il est probable en tout cas que le Christ ait considéré que l'année de sa mission publique correspondait à la 490e année de la prophétie de Daniel. C'est l'année de grâce de la part du Seigneur. Voilà. Ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant et assez bien fondé exégétiquement. Donc voilà, alors nous ne sommes pas tout à fait à la fin du monde, mais néanmoins, vous voyez, il y a bien quand même une datation rigoureuse, hein, autant que faire se peut, à partir de calendriers précis. Et alors maintenant, venons-en à la fin du monde stricto sensu. Alors là, patatras, tout s'effondre, parce que voilà ce que nous dit le Seigneur. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Père. Ni le Fils, pardon, personne que le Père. Alors, voilà une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque le Christ affirme de la manière la plus positive possible qu'il ignore la date de la fin du monde. On a échafaudé, je vous épargne ça, à ce sujet de laborieuses théories sur l'ignorance apparente. C'est-à-dire qu'en fait, il l'aurait su, mais il aurait caché ce savoir. Bon. En fait, c'est pas du tout. C'est une solution qui n'en est pas une, qui en fait fait mentir les paroles du Christ lui-même. Donc, il vaut mieux consentir rigoureusement, même si il y a de grands noms. Qui estime que le Christ connaissait cette date, il vaut mieux consentir à ce qu'il nous dit lui-même. D'ailleurs, avec un exemple qui est donné par Saint Cyrille d'Alexandrie lui-même. Saint Cyrille nous dit: Nous avons admiré sa divinité en ce que, par amour pour nous, il n'a pas refusé de descendre si bas pour supporter tout ce qui appartient à notre nature, dont notre ignorance. Voilà. Alors ça, quand Cyrille d'Alexandrie vous dit ça, là, vous dites, c'est difficile de réfuter quand même. Hein. Bon. Parce que Cyrille d'Alexandrie, c'est vraiment le docteur par excellence de l'incarnation du Verbe, c'est-à-dire le Verbe éternel, Fils de Dieu, qui prend une humanité comme instrument de sa, de sa, de sa, de sa, de ses desseins. Et donc, lorsque Cyrille lui-même nous dit que le Christ a volontairement assumé l'inconnaissance de la date de la fin du monde, c'est que pour Cyrille d'Alexandrie, ça n'est pas une imperfection de la part du Seigneur de ne pas savoir la date, c'est au contraire une perfection supplémentaire de son incarnation. Vous voyez, c'est là où l'argument de Cyrille devient tout à fait intéressant. C'est que l'ignorance n'est pour Cyrille n'est jamais quelque chose que le Christ subit. Lorsqu'il ignore quelque chose, c'est parce que il n'a pas voulu le savoir en quelque sorte. Hein, voilà. Et que du coup, s'il n'a pas voulu, c'est qu'il avait de bonnes raisons pour cela. Du coup, vous sentez comment, en réalité, le Christ retrouve ici de cette manière-là l'inspiration de l'impatience prophétique que l'on a vue chez Isaïe ou dans les psaumes, et qui refuse tous ces computes très compliqués sur la fin des temps. Alors, pour quelle raison? Eh bien, c'est parce que là, nous retrouvons justement les raisons morales, hein, des prophètes. Pour une humanité pécheresse, le jugement est une éventualité toujours suspendue au-dessus des têtes, et les modalités de sa réalisation dépendent de Dieu. Oui, mais cet argument négatif devient positif dans le cas de l'humanité sainte du Seigneur, parce que le Christ ne craignait rien pour lui de la fin des temps. Il n'avait Le dernier jour n'était pas pour lui la cause d'une peur quelconque, puisque dans la perfection absolue, hein, immaculée de son humanité sainte, eh bien, le temps du jugement était au contraire pour lui celui de l'avènement du royaume définitif de Dieu. Donc, il n'avait pas à craindre cette perspective. Donc, le Christ a ignoré cette date, alors pour deux raisons. C'est que, d'une part, eh bien ainsi, il apprenait, dans son humanité sainte, à recevoir totalement du Père cet avènement de la fin des temps. Ne pas la savoir, savoir qu'elle peut, que ce jugement il est imminent, hein, qu'il peut arriver n'importe quand, sans que nous le sachions, eh bien, c'est pour réserver à Dieu seul la date de, enfin, au Père seul plutôt, la détermination de ce jour pour le recevoir dans un abandon total à sa providence. La clé de cette naissance, vous voyez, il ne faut pas parler d'ignorance du Christ quant à la date du dernier jour, mais de naissance, parce que ignorance, c'est toujours imparfait. Alors que là, c'est une inconnaissance ou une naissance, c'est-à-dire le fait qu'il ne sait pas, parce qu'il n'a pas voulu savoir, parce qu'il y avait une plus grande perfection morale à ne pas savoir. Et autre, donc, d'une part, pour être abandonné totalement à la providence de Dieu, et d'autre part, aussi par solidarité avec les pécheurs qui, eux, craignent ou doivent craindre le jour du jugement. Oui, donc, par solidarité avec leur propre détresse, en quelque sorte, pour mieux faire corps avec eux, afin que dans sa miséricorde, il les rejoigne dans leur crainte pour qu'ils puissent eh bien, se convertir et ne plus craindre le jugement de Dieu. Donc, vous sentez en fait que l'ignorance ou la naissance de la date de la fin du temps, qui nous est donnée en modèle dans l'humanité sainte du Seigneur, elle a deux perspectives. D'une part, entretenir l'impatience prophétique de l'avènement de Dieu, conformément à ce que disent les psalmistes, Isaïe, etc. C'est-à-dire, là pour le coup, c'est le contenu même de l'espérance chrétienne qui est en jeu, c'est-à-dire être travaillé par le passage dans une nouvelle création sans laquelle notre foi n'a absolument aucune justification. Notre foi n'est pas justifiée par le confort qu'elle nous donne en ce monde, mais uniquement parce qu'elle nous permet d'accéder à la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose de fondamental, autrement on est joachimite. Et la foi chrétienne est un passeport pour l'éternité, hein, et ce n'est pas autre chose. Donc, ça va de pair avec l'impatience prophétique de l'avènement, enfin, de ce règne. Autrement, sinon, ça veut dire qu'on ne le désire pas vraiment, vous voyez. Et Léon Blois a des formules assassines sur ces chrétiens que, vraisemblablement, l'avènement de la fin des temps laisse totalement froid. Et qu'ils n'ont pas tellement envie, en fait, hein, que ça arrive. Bon. Ben, l'ignorance de la fin des temps est là pour entretenir notre impatience que ça arrive. Et donc ça, pour le coup, le Christ en a donné lui-même un exemple. Et l'autre aspect, c'est donc l'abandon à la providence divine de qui dépend, en définitive, cette heure. Voilà, donc vous voyez, la Bible, en fait, a beaucoup de choses à nous dire, hein, sur ce chapitre, finalement, si on regarde de près, hein, beaucoup plus que ce qu'on croit a priori. Mais, comme vous avez vu, la réponse ultime est donnée par le Seigneur de manière catégorique, et il faut faire avec. Voilà.